Merci, nous revenons ici à Kinshasa pour tout de suite démarrer la deuxième séance qui est celle des questions et réponses. Donc Kinshasa, deux questions, une à gauche, une à droite. De préférence, nous commençons par une dame. Bon, s'il n'y a pas de dame, donc oui, passez le micro ici. Merci madame pour ce volontariat. Oui, passez le micro rapidement s'il vous plaît.
Merci Félix, et Elvira Panzou pour le compte de la radio-télévision La Louange. Pendant que le gouvernement et les communautés locales exigent le rapatriement des Sud-Soudanais armés, le HCR annonce les débuts de l'opération de l'identification pour leur prise en charge par la communauté humanitaire. J'aimerais savoir que compte faire la MONUSCO afin de trouver une solution durable à ces problèmes. Merci.
Oui, merci. Donc peut-être que la partie HCR sera prise par Florence, mais comme je le dis, je l'avais répété la dernière fois, il faut faire la distinction entre les éléments armés qui sont venus du Sud-Soudan et les réfugiés qui sont en RDC en provenance au sud du Sud-Soudan. C'est la première clarification qu'il faut faire. Maintenant, votre question est assez pertinente. Quelles sont les mesures ou quels sont les mécanismes que la MONUSCO compte mettre en place pour régler définitivement le problème de ces Sud-Soudanais. Et comme nous l'avons dit au départ, ces Sud-Soudanais sont venus en RDC pour fuir les combats qui les opposaient aux troupes loyalistes du président Salva Kiir. Ces troupes appartiennent au vice-président Riek Machar, qui lors d'une confrontation lui-même était entré en RDC. Sur requête des autorités congolaises, nous avons agi sur des bases purement humanitaires pour les extraire du parc de la Garamba où ils s'étaient réfugiés et dans lequel nous avions déjà enregistré une quarantaine de morts. Nous les avons désarmés, transportés et mis cantonnés dans nos bases où nous exerçons une surveillance accrue, une surveillance très très rigoureuse sur eux pour ne pas qu'ils constituent une menace pour les populations dans les bases, les populations environnantes des bases dans lesquelles ils ont été cantonnés. Nous avons sécurisé ces armes. Nous avons aussi procédé à leur prise en charge au plan médical, au plan alimentaire et au plan de l'hébergement. Donc oui, ceci a été fait suite à la requête des autorités congolaises. Maintenant, quelle est la solution définitive au problème de ces Sud-Soudanais? C'est ce que je ne cesse de répéter. Ce problème n'est pas un problème qui est exclusivement dévolu à la MONUSCO. Ce problème nécessite la conjugaison des efforts de tout un chacun. Des efforts en provenance de la MONUSCO, certes, et des Nations Unies, des efforts de la part de la République démocratique du Congo, des efforts de la part de la République du Sud-Soudan, de l'Union africaine, de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, mais aussi de tout autre partenaire qui voudrait aider à mettre en place des mécanismes efficaces qui permettent de rapatrier ces Sud-Soudanais ou chez eux, ou en tout cas les rapatrier vers un pays tiers qui se serait proposé pour les accueillir. Mais nous sommes tous d'accord sur une chose. Les Sud-Soudanais présents en République démocratique du Congo doivent partir de la République démocratique du Congo, mais ceci requiert encore une fois la contribution et les efforts de tout un chacun. Merci. Je prends une deuxième question ici. Oui, excusez-moi Florence, vous avez quelque chose à rajouter?
Voilà, je complète. Évidemment, Félix a fait référence aux rebelles qui ont été désarmés. Vous avez aussi fait référence aux réfugiés qui sont aujourd'hui plus de 60 000 dans les provinces du Haut-Uele. Et donc ces réfugiés actuellement, et ça c'est un message que le coordonnateur humanitaire, le docteur Diallo, que je représente ici, veut faire passer. Près de 2 personnes sur 3 parmi ces réfugiés actuellement ne vivent pas dans des camps parce que justement le HCR avec la Commission nationale des réfugiés sont en train d'installer des camps pour ces personnes. Donc 2 familles sur 3 actuellement vivent dans des familles d'accueil. Et une fois encore, c'est l'occasion de rappeler la générosité exceptionnelle de la République démocratique du Congo quand il s'agit d'accueillir des réfugiés. On l'a vu avec le Burundi l'année dernière, avec d'autres pays plus loin dans le temps. Mais c'est vraiment un message que nous souhaitons faire passer. Donc, il y a le cas des personnes qui ont été désarmées et qui sont, dont le sort doit être réglé. Mais la grande majorité, et c'est sur cette majorité-là que nous souhaiterions que vous vous arrêtiez, parce que ça concerne 60 000 personnes qui actuellement sont accueillies par vos compatriotes dans le nord-est de la République démocratique du Congo.
Oui, merci Florence pour ces éclairages. Donc, nous prenons une deuxième question ici à Kinshasa.
Oui, merci. Merci Albert Oban, America TV. Je voudrais m'adresser à M. Aranas. Et d'après le second rapport que vous avez publié, et vous avez fait allusion à 53 cas de décès et d'autres violations des droits de l'homme. Et la question est de savoir pourquoi vous n'avez pas distingué, comme vous l'avez fait dans le premier rapport, où il y a 60% pour telle catégorie de violations qui ont été commises par telle catégorie. Et pour les cas ici, vous ne faites pas allusion, ces violations-là ont été commises par qui?
Oui, Arlaz.
Oui, merci beaucoup pour la question. C'est important de le clarifier parce que je pense que ça crée un peu de contribution. Le rapport, c'est un rapport surtout des droits de l'homme, qu'il y a aussi des autres informations de la violence commise. Mais en tant que violation des droits de l'homme, comme vous savez, les violations des droits de l'homme sont commises par les agents étatiques. C'est seulement les agents étatiques qui commettent les violations des droits de l'homme. Quand on parle, par exemple, dans les rapports de la note mensuelle, on met aussi les membres des groupes armés qui font des violations des droits internationaux humanitaires. Les autres incidents qui ont été documentés de violence ont été commis par les civils. Et alors, en tant que ça, on ne peut pas parler de violation des droits de l'homme, mais on parle de criminels. Et c'est un peu au-delà de notre mandat. C'est une question méthodologique, mais il faut la clarifier. Et surtout, je pense que c'est important de faire ces précisions. Merci pour la question.
Oui, merci. Donc, direction Goma pour prendre aussi deux questions. Goma, vous avez le micro.
Oui, merci. C'est Norbert Mwindulwa pour le compte du journal Émergence. À Bouléoussa, les humanitaires ont suspendu leurs appuis depuis cela plusieurs mois. Les déplacés ont fait un sit-in et promettent de retourner dans leur milieu d'origine malgré le non-rétablissement de la paix. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a-t-il une solution rapide et efficace face à cette revendication des déplacés, Florence?
Oui, merci. Je vais passer la parole à Sylvestre qui va pouvoir encore mieux répondre que moi.
Le besoin de retour des populations dans leur milieu d'origine est tout à fait légitime. Et nous, la communauté humanitaire, on ne peut pas, conformément à nos principes, faire retourner de force les populations vers leur milieu d'origine. On a enregistré quelques retours volontaires, mais pour organiser un retour collectif, il y a un certain nombre de conditions, un certain nombre de préalables que on est en train d'examiner, notamment avec les autorités locales. Mais c'est vrai qu'ils veulent rentrer, ils devraient rentrer chez eux. C'est leur droit le plus légitime.
Oui, merci. Nous restons à Goma pour une deuxième question.
Merci. Je réponds au nom de Viviane Zabarinda pour le compte de la radio-télévision belge francophone. Mais aussi, je publie sur le site imbourifar.info. La question s'est adressée à Madame Marshall qui nous parle des activités humanitaires. Ce serait de ma part savoir comment et vous évaluez les plans d'exécution humanitaire que vous avez eu à mettre en place depuis le début de l'année 2016 pour peut-être chercher à coordonner certaines activités humanitaires. Étant donné qu'aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont menacées à la RDC par les pays, bien sûr, partenaires au développement de la République démocratique du Congo. Merci.
Oui, Florence.
Oui, je vais prendre la première partie de la question. Le plan, les 52% du plan humanitaire à ce jour ont été financés. On est à 3 mois de la fin de l'année. Vous voyez, la mobilisation des ressources doit encore se faire pour pouvoir aider et porter assistance à toutes les personnes qui sont dans le besoin, donc à mobiliser la communauté internationale. Après, je pense que les choses sont bien séparées et que la mobilisation des ressources auprès pour les besoins humanitaires n'ont rien à voir avec les sanctions auxquelles vous faites allusion.
Oui, merci. Vous avez quelque chose à rajouter?
Non, c'est tout à fait ce que Florence vient de dire. Les sanctions que vous évoquez n'ont rien à voir avec l'action humanitaire qui est en cours. L'action humanitaire se poursuit avec les contraintes qui sont les siennes, notamment en termes d'accès dans certaines zones, dans certains territoires du pays, notamment à cause de l'insécurité. Certaines contraintes sont aussi de l'ordre financier, Florence vient de vous dire. Sur les 690 millions de dollars qui avaient été requis en début d'année pour financer l'action humanitaire en 2016, plus de 50% ont déjà été reçus, mais il faut faire encore plus. Et la générosité des bailleurs de fonds, de l'action humanitaire a toujours été avec la communauté humanitaire en RDC, et l'action humanitaire va se poursuivre. Ce que vous évoquez n'a rien à voir avec l'action humanitaire.
Merci à Sylvestre pour tous ces éclairages. Nous revenons ici à Kinshasa pour prendre deux autres questions. Donc, je commence par la droite. Oui, passez le micro là.
Alain Mouzi pour la radio SCC. Monsieur Aranaz, dans votre rapport, vous avez évoqué aussi des cas d'arrestation. Je voudrais savoir comment vous qualifiez ces arrestations. Est-ce que vous faites un suivi pour que les personnes arrêtées puissent bénéficier d'un procès équitable?
Oui, merci beaucoup pour la question si pertinente. Les cas d'arrestation, même que les cas, les chiffres des personnes blessées et des personnes tuées, c'est tout à fait conservative, parce que nous avons eu des accès qui n'étaient pas d'accès qui étaient restreints. Qui était restreinte, ça c'est contraire au lettre d'accord entre le commissaire et le gouvernement. Les premiers jours des événements, nous avons eu des accès à certains centres de détention, notamment au camp Kokolo, qui était à partir du premier journée. Nous n'avons pas eu plus d'accès là-bas. Nous avons eu des problèmes d'accès à certains hôpitaux et morgues, et il faut le dire comme ça. On a suivi avec les familières et les autres personnes qui nous ont donné l'information. Et la question des processus équitables, ça nous inquiète. Par exemple, nous savons qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient jugées on a utilisé le processus de flagrante delito pour juger les détenus, mais le processus a commencé 15 jours après qu'ils ont été détenus. Ça, c'est un peu choquant au moins. parce que pour le flagrant délit, il faut le juger immédiatement. Alors, nous sommes aussi présentés notre préoccupation pour la qualité de beaucoup de ces processus. Et ça, c'est la question de l'administration de la justice. C'est une autre chose qu'on a souligné de manière constante dans notre rapport.
Oui, merci. Donc, une deuxième question à gauche, oui. Donnez à la dame au fond.
Oui. Laurette Mandala, Africa Télévision. Monsieur José Maria Aranaz, comprenez que nous revenons beaucoup plus sur votre rapport. Nous voulons avoir plus de précisions sur les enquêtes des événements du 19 et 21 septembre qui se sont déroulées à Kinshasa. Des précisions, je dis, parce que le gouvernement a publié un livre blanc. On aimerait savoir s'il y a de ressemblances avec ce qu'a dit le gouvernement dans son livre blanc. Il y a eu des sièges des partis politiques qui étaient brûlés. Nous voulons savoir qui étaient les commanditaires de ces actes. On veut plus de précisions sur ce rapport. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la CPI ici. Non, pas du tout. Non. Voilà, je garde ma question.
Merci. Monsieur Aranaz.
Vous savez toute l'information que c'est dans les rapports qui a été publié. Je pense que la conclusion plus importante du rapport, c'est qu'il y a besoin d'avoir une enquête complète, transparente, crédible. Avec nous avons donné toute l'information que nous avons aux autorités pour avoir cette enquête. Et nous sommes prêts à collaborer avec les gouvernements pour faire la lumière de tous les événements qui se sont passés le 19, le 20 et le 21, pour savoir qui a brûlé les sièges des partis politiques le 19, qui a payé les colonnes qu'ils ont pillées les magasins, qui a attaqué les stations de police, qui attaquaient les sièges de partis politiques le 20 septembre. Je pense que c'est important de faire cette investigation d'une manière systématique, claire, et pour convaincre la population et aussi aux autorités, à la communauté internationale, de rassurer qu'il n'y en a pas un agenda caché dans tout ça, et c'est pour ça que nous sommes offert toute notre information et tout notre moyen aux autorités pour faire cette enquête.
Oui, donc nous repartons à Goma où les gens s'impatientent un peu. Je prends aussi deux questions à Goma, mais très rapidement parce que le temps tourne. Hein.
Merci beaucoup, c'est Maurice Nduiko de Micha Pivo STV. La question s'adresse à Félix. 12 personnes présumées Mai Mai ont été tuées par les FRDC à Kabasha. Et ces personnes disaient être aux côtés de la population pour combattre les ADF. Est-ce que ces Mai Mai qui n'avaient pas encore attaqué les FRDC, est-ce qu'ils ont causé une menace aux troupes des FRDC et de la MONUSCO?
Oui, merci pour votre question. D'abord, je relève quelque chose qui me paraît assez bizarre, parce que vous dites que ces personnes ont été tuées, mais que ces personnes ont dit en même temps qu'elles étaient à côté des populations. Donc, je ne pense pas que les morts parlent encore. Ça, c'est la première chose. Mais pour revenir sérieusement à cet épisode qui s'est passé à Boutembo il y a quelques jours. Votre question est celle de savoir si les Mai Mai devraient exister en d'autres termes. Parce que déjà, il faut reconnaître une chose, c'est que la sécurité des populations congolaises et l'intégrité du territoire national congolais, ces deux fonctions régaliennes sont assurées par les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, qui sont les forces de défense et de sécurité congolaises de cet État-là. Maintenant que des gens prennent des armes, se constituent en groupes armés, bien sûr que vous savez très bien que c'est illégal et que toute personne détentrice illégalement d'armes devrait normalement être neutralisée pour ne pas que ces armes soient retournées après contre les populations civiles. Nous avons vu aussi qu'il y a eu des morts parmi les agents des forces de défense et de sécurité congolais. C'est la deuxième fois que cette question des Maï-Maï revient sur la place. Nous connaissons tous l'historique de la formation de ces groupes Maï-Maï. Nous savons tous aussi quelle est la contribution à l'époque que les Maï-Maï ont peut-être apporté, mais aussi nous savons aujourd'hui que ces Maï-Maï constituent une préoccupation sécuritaire majeure parce que ces groupes retournent leurs armes contre les populations civiles que les FRDC et la PNC sont censés protéger, mais aussi la MONUSCO dans le cadre de l'exécution de son mandat. Qui est Tcheka? C'est pas un Maï-Maï? Qui est Janvier Kariri de l'Alliance pour le Congo libre et souverain? C'est pas un Maï-Maï? Et tant d'autres groupes Maï-Maï qui aujourd'hui sèment la désolation et la terreur au sein des populations civiles congolaises. Ces groupes Maï-Maï nécessitent d'être neutralisés par les forces de défense et de sécurité congolaises qui sont les seules habilités à porter des armes, à défendre l'intégrité du territoire et à défendre les populations congolaises. Merci. Donc nous prenons une deuxième question à Goma.
Oui, c'est Charlie Kasereka pour la Voix de l'Amérique. Et c'est toujours par rapport au rapport et à ce qui concerne l'actualité. Avant-hier, hier et aujourd'hui, certains membres de la Lucha ont été arrêtés. Et on aimerait bien savoir qu'est-ce que le Bureau conjoint des droits, aux droits de l'homme fait actuellement pour prévenir, surtout avec les 2 mois qui restent pour la fin de cette année. La question est adressée soit à Aranas ou à Charles Bambara.
Oui, merci. Charles Bambara n'est pas sur le plateau pour répondre aux questions, mais je pense que M. José Maria est là pour prendre cette question.
Merci beaucoup. La question... conforme avec la Constitution.
Merci et désolé pour ces désagréments techniques que nous avons vécus tout à l'heure, surtout la question a été initiée à partir de Goma, mais je reviens ici à Kinshasa pour prendre 2 questions, une à droite, une à gauche. Passez le micro, s'il vous plaît.
Moulegua pour Jean Sanadolou. Hier, dans un communiqué, le camp présidentiel acquise la MONUSCO, c'est pas les bureaux des droits de l'homme, relativement à votre rapport d'être partisan sensationnel et d'entêter l'opposition, la radicaliser. De ce fait, ne pensez-vous pas, après leurs observations, être à la fois virus et antivirus pour profiter de la situation tendue de la fin de l'année? Merci.
Oui, José Maria.
Oui, merci beaucoup. Je ne vais pas répondre les déclarations politiques. Je pense que c'est le rôle des politiciens de faire les déclarations politiques. Toute l'information que nous avons a été partagée avec les autorités. Nous sommes prêts à collaborer avec les autorités. Notre méthodologie, c'est très stricte. C'est la même méthodologie qui était utilisée par tout le monde, par tous les bureaux des Nations Unies des autres pays. C'est l'information qui était vérifiée. Et je pense... le rapport à l'information qui était déjà partagée par les représentants spéciaux du secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations Unies, par les hauts commissaires adjoints au Conseil des droits de l'homme, il n'y a pas beaucoup d'autres informations, même si l'information, je pense, un peu tard et tout ça, mais c'est l'information vérifiée et il n'y a pas Le seul but de notre rapport, c'est aider aux autorités à faire la vérité, faire la lumière sur les événements et aussi de montrer où il y a un problème de violation des droits de l'homme pour les corriger, parce que ce que nous voulons, c'est avoir un processus de dialogue politique et de sélection qui soit crédible et apaisé.
Ah oui, j'annonce juste que nous allons peut-être très bientôt rendre l'antenne à Radio Okapi, mais je prends une deuxième question ici à Kinshasa. Oui, passez le micro. Oui, là, à Bibou, s'il vous plaît. Oui, rapidement, s'il vous plaît, le temps.
Abibou Bangré pour Le Monde Afrique. Je reviens sur la reddition de Gédéon pour M. Aranaz. Il a, selon de hauts responsables de l'armée congolaise, bénéficié d'une amnistie alors qu'il a été condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et qu'il s'est évadé de prison. Après quoi, il aurait commis d'autres exactions. Je voulais savoir quelle était la réaction du BCNUDH.
La rendition de Gédéon, en principe, c'est des bonnes nouvelles en tant que ça va contribuer à apaiser le territoire de Tanganyika. Mais les problèmes que vous avez évoqués, c'est une préoccupation que nous partageons. Et c'est pour ça que nous avons à communiquer aux autorités notre préoccupation. Nous avons alerté contre toute tentation d'amnistier Gédéon qui était déjà condamné pour les crimes graves, et comme on a déjà commencé à parler avec les autorités responsables, la place de Gédéon, c'est la carcère et la prison, et il faut avoir tout ça à notre conscience, et aussi les victimes de tous les crimes de Gédéon et de Maïmaï, et éviter la tentation de les pardonner pour les crimes graves qui étaient déjà, donc il était déjà condamné.
Ah oui, merci. Donc peut-être juste pour ajouter deux choses. La première, c'est que la MONUSCO n'a pas pris part à tout le processus de reddition de Gédéon. Gédéon s'était rendu aux autorités provinciales, notamment le gouverneur. Mais aussi la deuxième précision, c'est que Gédéon a été condamné par le passé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui sont des crimes imprescriptibles de toutes les façons. Donc voilà ce que je voulais rajouter sur ça. Je repars donc à Goma pour prendre deux autres questions avant de revenir ici à Kinshasa. Goma, vous avez le micro.
Merci, je suis Victoire Mouliavio de la radio-télévision Carabine. Et ma question est de savoir les fonctions régalières de sécurisation des territoires nationaux appartiennent à l'État, et pourquoi, quand le gouvernement congolais veut à tout prix envisager la réduction de l'effectif militaire de la MONUSCO, ça crée vraiment un problème ou alors une cacophonie, et la MONUSCO ne veut pas à tout prix que son effectif soit réduit ici en République démocratique du Congo, pourtant qualifié qualifié par le gouvernement, sa mission est qualifiée par le gouvernement et déjà accomplie. Merci.
Oui, merci pour votre question. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de confusion dans vos propos, parce que d'abord, la MONUSCO n'a jamais refusé de réduire ses effectifs. La MONUSCO a plutôt proposé un processus graduel de réduction, parce que nous avons été clairs dès le départ, la MONUSCO n'est pas venue en RDC pour rester là de manière pérenne. La MONUSCO est là sur invitation du gouvernement pour contribuer à neutraliser les groupes armés, à protéger les populations civiles et à stabiliser le pays. Voilà donc, si vous voulez, les axes vers lesquels le Conseil de sécurité nous a dirigés, et c'est à cela que nous nous en tenons. Nous avons proposé une réduction graduelle pour ne pas que les acquis qui ont été engrangés au fil des années et de manière laborieuse au péril des vies des soldats congolais, des populations congolaises, mais aussi des casques bleus, pour que ces efforts-là ne soient pas néants, de manière très globale. Mais nous nous sommes entendus sur les principes de base. Il faut mettre en place des mécanismes et ne pas tout simplement sortir de la RDC de manière désordonnée, et pour que, en fait, la situation qui était là au préalable puisse puisse ressurgir. Non, nous avons demandé une réduction de manière méthodologique, de manière progressive, mais aussi de manière certaine, parce qu'il est évident que nous avons, même dans nos plans déjà, des plans de sortie de la RDC qui sont déjà étudiés, planifiés, mis progressivement en œuvre. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas qu'il y ait cette confusion en disant que la MONUSCO ne veut pas. La MONUSCO est là sur invitation, mais nous pensons aussi que ce qui a été fait en commun, ce qui a été fait de manière positive, doit rester et doit être préservé. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je reste toujours à Goma pour prendre une deuxième question. Oui, Goma, oui, rapidement une deuxième question.
Pour, Daniel Michombero pour Vision Challah. Ma question s'adresse à Marie Aranas. Les Nations Unies restent un partenaire clé et essentiel de la République démocratique du Congo. Au moins 500 civils ont été victimes de violations des droits humains. À l'heure où nous vous parlons, les hommes de l'ordre sont en train de faire la chasse à l'homme derrière donc les éléments, les membres de la lucha. Nous voulons donc notre question est de savoir à quand les sorts des acteurs principaux dans ces violations. Merci.
Oui. Voulez-vous reprendre de manière très succincte votre question? Monsieur Aranaz ne l'a pas bien saisi. De manière succincte, hein?
À l'heure actuelle, les éléments, donc les membres de la lucha, sont en train d'être chassés. Comme la chasse à l'homme, donc, par les hommes de l'ordre, nous voulons savoir jusqu'à présent à quand le sort de ces acteurs principaux dans les victimes des droits humains, c'est ça.
Oui, merci, merci beaucoup. Je pense que j'étais clair quand j'ai dit que nous sommes très préoccupés pour les questions des attaques, des menaces aux activistes de la société civile. Nous défendons et on a fait les plaidoyers pour avoir les droits de manifestation et de protestes pacifiques. Et c'est ça qu'on a exprimé aux autorités. Les collègues de notre bureau à Roma, ils sont en train de faire le suivi dans les cas des activistes qui ont été arrêtés. Et comme j'ai dit, nous sommes très préoccupé par la question des attaques aux activistes de la société civile. On a dit beaucoup de fois dans ces mêmes conférences de presse et dans notre rapport, on ne peut pas parler d'espace démocratique et des élections crédibles sans une participation de la société civile et sans respect des droits à la manifestation politique.
Oui, merci. Donc nous retrouvons donc nos collègues de Kinshasa pour deux dernières questions avant de donner la chance aussi à Goma. Deux questions. Oui, vous avez le micro, vous pouvez le garder, vous n'avez pas besoin de vous énerver. Allez-y.
Merci pour la parole, Symphorien Katumba, pour le compte de l'explorateur. J'ai une préoccupation, porte-parole basse. Et le complexe Mama Diakese. Le complexe Mama Diakese, qui a présenté un troupe théâtral de filles lors du 70e anniversaire des Nations Unies. Ma question est de curiosité. Est-ce que la MONUSCO va profiter de cette occasion de pouvoir faire une large diffusion de cet élément qui est capital pour la première fois et le faire rebalancer de nouveau? J'ai dit je vous remercie.
Je n'ai pas bien
suivi. J'ai dit un partenariat en fonction avec le complexe Mama Diakese, de ces filles qui ont présenté un troupe théâtral lors du 70e anniversaire des Nations Unies. C'est un élément qui est capital. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse faire une large diffusion parce que ça touche toutes les couches de la vie nationale? J'ai dit je vous remercie.
Oui, merci. Peut-être que les organisateurs de cette cérémonie pourraient en parler. Mais moi, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que je pense que la présentation qui nous a été faite lors de la cérémonie des 71 ans du système des Nations Unies, je pense que c'était magnifique. Ça, c'est d'abord une première chose. Surtout que ce sont des enfants qui ont envoyé des messages à l'endroit des adultes concernant justement la violence qui a été observée en République démocratique du Congo. Et en fait, c'était un appel de tous ces enfants de 5, 6, 7 ans aux autorités, mais aussi à la MONUSCO et à tout le monde, pour leur dire, écoutez, on veut aller à l'école, il y en a assez de ces guerres, ne nous mêlez pas à vos problèmes. Mais je pense que ce message était assez fort. Maintenant, dupliquer ou éventuellement diffuser sur une plus grande échelle ce qui nous a été présenté à Lausonia le lundi, je pense tout simplement que c'est une bonne initiative. Et peut-être que Florence, vous avez quelque chose à rajouter, vous qui avez été au cœur des préparatifs.
Non, mais on en prend en bonne note et puis on va voir ce qu'on peut faire avec le groupe de communication. Je rappelle quand même qu'il y a d'autres initiatives faites par la section de protection de l'enfant de la MONUSCO, par l'UNICEF aussi, hein, pour les enfants. C'est pas la seule. C'est dans notre mandat à tous ici de protéger les enfants. Mais c'est vrai que c'était quelque chose de rafraîchissant. Et le message, j'ai envie de dire aussi, vous étiez là, vous avez pu aussi le filmer, l'enregistrer. Et c'est aussi ce qu'on attend de vous dans notre partenariat avec vous, que vous puissiez le montrer sur vos différents médias.
Oui, merci. Donc, une deuxième et dernière question pour Kinshasa, je pense bien. Oui, donnez le micro. Oui, allez-y. Okay.
Merci, c'est le petit Bayende du journal Avenir. J'ai une toute petite question sur le plan politique. J'aimerais savoir le sommet de chef d'État qui s'ouvre aujourd'hui à Luanda. Quel sera son apport par rapport puisqu'on a déjà les conclusions du dialogue et ce sommet-là va aussi parler de la situation en RDC, quel sera l'apport de ces sommets par rapport à la RDC?
Oui, merci. Vous avez parfaitement raison d'évoquer ce sommet qui s'ouvre aujourd'hui à Luanda. C'est la septième réunion des chefs d'État concernant justement le mécanisme de suivi de l'accord cadre, mais c'est une réunion régionale du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre qui doit se tenir aujourd'hui à Luanda et nous avons d'ailleurs le représentant spécial le représentant adjoint du représentant spécial, Monsieur Maman Sambo Sédigou, mais Monsieur David Gressly est actuellement à Luanda pour prendre part justement à ces échanges. Il faut tout simplement retenir une chose, c'est-à-dire que l'accord cadre avait été signé le 24 février 2013, si vous vous rappelez bien, justement pour prendre en compte les causes profondes des conflits qui ont été observés en République démocratique du Congo, mais qui ont un impact sur tous les autres pays de la région. Donc c'est assez fait que les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs se sont érigés en garant de cet accord qui a été signé par 11 autres voisins de la République démocratique du Congo pour que on puisse trouver des solutions aux causes profondes de la violence qui a été observée en République démocratique du Congo. Donc ce sommet qui va s'ouvrir aujourd'hui, bien sûr, aura tout simplement pour objectif de visiter ou en tout cas de faire une évaluation de la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs, parce que ceci vient justement après le sommet qui avait été tenu à New York le 29 septembre 2015. Donc cette fois-ci encore, les chefs d'État vont se retrouver pour revisiter, réévaluer les efforts qui ont été faits et les manquements qui ont été aussi enregistrés depuis septembre 2015 lors du dernier sommet de New York. Maintenant, certes, peut-être que d'autres sujets vont s'inviter a priori dans cette discussion-là, mais là, je ne peux pas en parler parce que je ne suis pas informé sur l'agenda qui va être développé aujourd'hui, mais je sais que à 10h, 10h30, la cérémonie d'ouverture devrait avoir lieu et que l'agenda serait adopté aussi aujourd'hui aux environs de 11h, 11h30. Donc c'est ce que je peux partager avec vous sur ce sommet de Luanda qui se tient aujourd'hui en Angola. Merci. Donc je repars à Goma. Je donne deux questions à Goma aussi pour être juste. Et après, on clôture cette conférence de presse. Goma, vous avez deux questions très rapidement. Des questions brèves, précises.
Ok. Donc, j'ai une petite question. C'est par rapport à... Je me nomme Roberto Mzoa Milimani. J'ai une question au capitaine Kassim. Je voulais savoir le nombre exact des contingents africains qui sont au sein de la MONUSCO et quels sont les pays qui ont attribué leurs troupes à la MONUSCO. Merci beaucoup.
Oui, mon capitaine.
Alors pour cette question, je vais chercher cette information et parce que vraiment je n'ai pas le chiffre exact. Alors pour ne pas donner de nombres erronés, je vais revenir la prochaine fois pour vous donner ça.
Oui, donc j'ajouterai tout simplement pour dire que la MONUSCO, la force de la MONUSCO est une force multinationale, donc qui ne tient pas compte des paramètres que vous venez d'évoquer, mais pour votre gouverne, on peut quand même vous aider. Les contingents africains qui se trouvent aujourd'hui au sein de la force de la MONUSCO, nous prenons la brigade d'intervention où vous avez 3 bataillons africains, le Tanzanien, les Malawites et les Sud-Africains. Au-delà de cela, nous avons aussi dans le Katanga le déploiement d'un bataillon béninois qui est actuellement responsable un peu de la protection des populations civiles dans cette zone-là. Donc de manière très globale, nous pouvons vous dire que les forces africaines qui font partie aujourd'hui de la composante force de la MONUSCO tournent autour de 4 contingents de manière très globale. Voilà donc, merci, ce que je pouvais vous dire. Une deuxième question à Goban. Ah, excusez-moi, sans compter les Ghanéens, je les avais oubliés qu'ils sont à Kinshasa. Oui, allez-y, une deuxième question pour Goban. S'il n'y a pas une deuxième question à Goma...
Il y a une deuxième question.
Oui, allez-y rapidement alors.
Merci, c'est Isaac Nguenza pour le compte Congo Opportunities Media. Ma question, je la pose au capitaine Kassim. C'est un rapport avec les opérations militaires à Beni. Je reviens de Beni depuis le lundi. J'ai parlé avec les Maï Maï. Quand ils sont entrés, les problèmes qu'ils disent, ils disent ceci, la MONUSCO et les FRDC n'acceptent pas les groupes armés, c'est très bien. Mais dès lors que les ADF ne sont pas neutralisés, les populations de Beni se disent, ils doivent toujours continuer à se constituer à une force d'autodéfense. Il ne s'agit pas de groupes armés qui menacent les FRDC. Et une petite question à celle-ci, pourquoi tuez-vous les gens qui tuent vos ennemis? C'est ça ma question. Quelqu'un qui tue vos ennemis, quelqu'un qui tue celui qui vous combat et vous allez pour le tuer. Merci.
Oui, mon capitaine, vous prenez une partie de cette question, s'il vous plaît.
Oui. Comme l'a déjà mentionné Monsieur Bass, alors la seule force légitime du Congo, sont les FARDC et la PNC, bien sûr, avec le soutien de la MONUSCO. À part ça, on peut pas dire qu'un groupe armé autoproclamé peut défendre les intérêts, bien sûr, de la population civile. Alors pour moi, les FARDC, la PNC et bien sûr toutes les institutions gouvernementales du Congo sont les seules légitimes pour défendre les intérêts de la population. Merci.
Oui, merci. Donc, je vais peut-être rebondir là-dessus pour peut-être vous retourner la question, parce que vous avez parlé avec les Baïmaï. Je serais curieux de savoir ce que vous leur avez dit, parce que c'est très important, parce que vous êtes journaliste. Vous ne devez pas simplement être une caisse de résonance pour ces groupes armés. Qui sont illégaux de toutes les façons. Je pense que vous devez contribuer, vous, en tant que journaliste, à dissuader cette prolifération de groupes armés. Vous parlez de groupes d'autodéfense. Attendez, je pense que, Isaac, vous êtes là-bas à Beni et vous savez très bien comment ça se passe. Vous savez très bien comment les groupes d'autodéfense qui étaient initialement formés pour défendre une certaine population, vous avez bien vu qu'aujourd'hui, quand même, ils sont pas en train de faire ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ils ont retourné leurs armes contre les populations, ils pillent, ils violent, et aussi, ils commettent des exactions contre ces populations qu'ils étaient censés défendre. Le capitaine l'a dit, et je le répète et je le martèle, il n'y a pas d'autres groupes armés qui devraient bénéficier d'une quelconque compréhension. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise sont des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, pourquoi est-ce que vous voulez encourager d'autres à porter les armes? Ce qui fait que ça complique davantage la situation sécuritaire et constitue des menaces pour les populations civiles. Il faut arrêter vraiment de faire l'apologie de ces groupes Maïmaï. Les groupes Maïmaï sont illégaux, ils doivent être désarmés, ils doivent être neutralisés par les forces de défense et de sécurité congolaises, parce que ce sont les seuls qui sont habilités, autorisés à porter les armes, à défendre l'intégrité du territoire, à défendre les populations et à défendre aussi les institutions. Donc c'est sur ces termes que je mets un terme à cette conférence de presse. Je vous remercie d'avoir été nombreux avec nous aujourd'hui. À mercredi prochain.
C'est sur ces termes que tu mets un terme?
Oui, c'est ça. Ouais. Tu as vu, ouais. Ah, là, là. Mais...